de Mohamed Erkoun, que je salue en votre nom. J'ai déjà salué au mien, par conséquent, ça ne vaut pas la peine que je recommence, et qui nous fait plaisir d'être là. C'est la première partie. Il va y avoir une interruption, parce que cette interruption correspond tout à fait simplement aux vacances scolaires, et que nous n'avons pas voulu prendre le risque de continuer ce cycle de conférences pendant ces vacances. Nous avons fait un pari sur ces conférences, le pari que cela finirait par faire venir et réunir sur ce thème, et avec les conférenciers de talent. De talent, je dis ça en toute modestie, puisque j'ai été le premier, mais avec les conférenciers donc de talent que nous avions réunis, de faire venir du monde dans cette salle et de permettre justement à la fois le moyen de s'exprimer sur un certain nombre de thèmes qui nous sont chers, en particulier ce thème de l'individu et de la communauté, et puis aussi d'instaurer, et je souhaite que cela vienne tout à l'heure, je vous en prie. Cher ami, je vous en prie, de permettre d'instaurer en même temps un dialogue avec la salle. J'espère que la salle, je sais déjà que dans la salle, il y a un certain nombre de gens qui sont directement intéressés, effectivement très intéressés par ce que va nous dire Mohamed Erkoun. Et par conséquent, je ne doute pas que le débat soit fructueux. En tout cas, c'est maintenant dans cette salle que nous présentons ces conférences et je vous remercie d'être venu aujourd'hui pour nous écouter. Alors, présenter Mohamed Erkoun, ça me paraît d'abord parce que les gens qui sont venus en sachant qui il était, et par conséquent, ça me paraît un petit peu gênant de le présenter ici. Je dirais simplement deux ou trois mots qui me sont personnels. D'abord que, évidemment, en tant que spécialiste de l'histoire de l'islam et de la pensée islamique, c'est effectivement peut-être l'homme qui, je dis à titre personnel, et je vous le dis, je ne vous l'ai pas dit jusqu'ici, mais je vous le dis aujourd'hui, m'a peut-être appris à comprendre et à connaître un petit peu de ce que je peux comprendre et connaître sur l'islam. Et j'espère que précisément sa présence ici, pas en tant qu'universitaire, mais en tant que conférencier, s'adressant à nous et s'adressant dans cette maison, à un public qui justement est venu pour essayer de comprendre un certain nombre de choses et de discuter d'un certain nombre de choses. Je crois que sa présence est très importante à un moment où les discours sur l'islam sont parfois des discours aberrants et je crois qu'il est plus que jamais nécessaire justement de mettre au point ce genre de choses et de rétablir un certain nombre de vérités, de réalités. Et je cède immédiatement la parole à Mohamed Erkoun, que je remercie encore une fois d'être là en toute amitié.
Merci beaucoup, cher ami, pour ces paroles. Mesdames et messieurs, je suis heureux effectivement de me trouver à Marseille et de me trouver dans la maison de l'étranger. J'ai dit au directeur de cette maison en arrivant que cette appellation est tout à fait convenable pour une ville comme Marseille, où il se passe tant de choses et où il y a justement tant d'étrangers. Offrir une maison à l'étranger, c'est l'hospitalité suprême. Et vous savez combien en islam, dans l'islam classique, parce qu'il est en train de changer lui aussi, les valeurs de l'hospitalité et l'ouverture à l'autre et à l'étranger sont quelque chose de tout à fait central. Alors moi, quand j'ai vu « Maison de l'étranger », mon cœur a bondi tout de suite et j'ai dit tout de suite « Oui, avec plaisir, je viendrai évidemment » parler dans cette maison.
C'est le lieu d'hospitalité.
Et c'est le lieu d'hospitalité et parler à Marseille. Ceci pour vous dire déjà dans quel esprit je vais essayer de traiter devant vous ce sujet difficile, islam, individu et communauté. C'est un sujet très difficile. Si déjà vous avez suivi les conférences précédentes, je suis sûr que vous avez pu mesurer la fécondité de ces deux concepts, d'abord, individu et communauté, car ce sont des concepts que l'on retrouve, bien entendu, dans toutes les expériences historiques et dans toutes les cultures. Ce n'est pas spécial à une culture déterminée. Et ce qui est intéressant dans la maison de l'étranger, c'est d'examiner ce problème difficile à la lumière de différentes expériences historiques développées dans différentes cultures. ce qui est intéressant à remarquer à cet égard, et aujourd'hui, c'est que la France est une société privilégiée. Parce qu'elle a sur son sol, précisément, beaucoup d'étrangers. Évidemment, je sais bien que certains Français ne regardent pas ce problème sous cet angle positif. Ceux des Français qui ne regardent pas ce problème sous cet angle positif manquent tout simplement de culture. Et ils ne connaissent pas l'histoire même de la société française et de la pensée française et de la culture française. Et plus généralement, ils ne savent pas ce qui a pu se passer au cours des siècles dans cette maison de l'étranger qu'est la Méditerranée et le monde méditerranéen. Nous sommes à Marseille, un des lieux justement si représentatifs de tous ces étrangers qui ont circulé dans le monde méditerranéen et qui ont fécondé toutes les cultures qui se sont développées dans le monde méditerranéen. La France a reçu déjà beaucoup d'étrangers et nous savons la contribution que ces étrangers ont apportée à l'enrichissement de la culture française et de la pensée française et de la société française. Et voici que des gens que l'on nomme étrangers et qui ne sont pas si étrangers que cela par rapport à la France, je veux dire bien sûr les musulmans, surtout ceux qui viennent du Maghreb, qui est à 800 km d'ici, voici que ces étrangers semblent provoquer plus de difficultés à être accueillis dans leur maison ici que d'autres étrangers. Et pourtant, nous allons voir, en réfléchissant sur le thème d'aujourd'hui, individu et communauté, que l'islam en tant que religion et l'islam en tant que développement culturel et intellectuel a connu des expériences tout à fait comparables à celles qui ont conduit historiquement en France à l'émergence de ce que l'on appelle l'individu face à ce qui a été vécu longtemps dans l'Église catholique et protestante comme la communauté. La difficulté, voyez-vous, c'est quand on parle de l'exemple islamique à propos de n'importe quel sujet, par exemple la fameuse laïcité qui préoccupe tant les Français actuels, chaque fois il faut traverser cette couche, hélas de plus en plus épaisse, d'images et de représentations qui proviennent de l'actualité politique, malheureusement souvent violente et tragique dans la plupart des sociétés musulmanes, et les représentations que l'on fabrique chaque jour à travers l'actualité et à l'aide de l'actualité font que on ne perçoit pas l'islam dans sa réalité doctrinale de religion, ni dans sa réalité culturelle, dans son expérience culturelle. Je fais des conférences un peu partout à travers la France et je constate, et vous le savez, que l'islam en tant que tradition de culture et en tant que civilisation et aussi en tant que religion est véritablement ignoré. On ne le connaît pas. Et on le connaît de moins en moins à cause, je le répète, de cette couche d'imagerie et de représentation évidemment liée à, encore une fois, à l'actualité politique, mais qui fausse absolument notre approche du problème. Individu et communauté, en islam, c'est surtout le mot communauté qui intervient en premier lieu. C'est lui qui s'impose en priorité. Ça n'est pas le terme individu. Seulement ici, il y a une difficulté pour vous présenter ce sujet. C'est que il faut avoir une approche comparée entre le développement des problèmes liés à l'individu et à la communauté en Occident, ou je dirais de préférence en Europe, j'expliquerai pourquoi, d'une part, et en islam d'autre part. Parce que si je vous donne uniquement des explications sur la notion de communauté en islam, je ne pourrai pas vous entraîner dans une réflexion qui, aujourd'hui, intéresse aussi bien les sociétés musulmanes actuelles que toutes les sociétés d'Occident actuelles. Toutes. Alors, je vais essayer d'avoir cette approche comparée de ce qui a eu lieu du côté islamique et de ce qui a eu lieu du côté européen. Alors, pourquoi d'abord je dis européen de préférence à Occident ? Parce que la notion d'Occident, aujourd'hui, c'est essentiellement une notion géopolitique et une notion économique et financière. Le Japon fait partie, désormais, de cette entité que l'on appelle l'Occident. Et si l'on veut, l'Occident, ce sont ces 7 pays les plus riches du monde réunis à Paris le 13 juillet dernier. Cette notion d'Occident ne recouvre pas la notion historique qui nous intéresse ici pour la comparer à l'islam. La notion historique d'Europe. C'est en Europe, en effet, que se sont développées des expériences au sujet de la communauté d'abord, communauté chrétienne, comme je l'ai dit, et au sujet de l'individu ensuite, l'émergence de l'individu. Ça, c'est une première raison qui fait que je préfère parler de l'Europe et non pas d'Occident. La deuxième raison, et qui est très importante, c'est que l'islam, dans son développement religieux, en tant que religion, et l'islam en tant que culture, fait partie intégrante de l'espace européen. Ça n'est pas habituel. On n'entend pas ça souvent. Ça gêne aussi bien les musulmans actuels, qui ne voient pas l'histoire non plus comme ils devraient la voir, que les Européens, bien sûr, qui ont développé de l'islam cette image hostile et plutôt, hélas, agressive, à laquelle il conviendrait justement de remédier par une approche plus équilibrée, plus historique, plus culturelle, plus intellectuelle. Alors, il faut bien avoir en tête, par conséquent, que culturellement et intellectuellement, ce que nous appelons l'Europe et ce que nous appelons l'islam renvoie aux mêmes structures religieuses, aux mêmes structures culturelles. Ça, c'est un point extrêmement important. Pourquoi ? Il faut le justifier. L'islam en tant que religion continue et prend en charge la totalité de l'histoire religieuse qui s'est développée au nom de ce que l'on appelle les prophètes et au nom de ce que l'on appelle la révélation. L'islam, le Coran, prend à son compte toute la révélation faite aux prophètes de la Bible dans la phase juive du développement du monothéisme, et il prend à son compte la phase chrétienne de l'histoire de la révélation, puisque Jésus-Christ est reconnu par le Coran comme le Verbe de Dieu, comme la parole de Dieu, Kalimatun min Allah, dit le Coran, et il reconnaît la révélation faite dans le Christ comme une étape de l'histoire très longue de la révélation remontant jusqu'à la figure religieuse commune à toutes ces trois religions monothéistes d'Abraham. Voilà doctrinalement, voilà du point de vue religieux la réalité qu'il faut prendre en compte. Et lorsque nous disons la révélation, nous faisons évidemment allusion à ces événements successifs qui ont eu lieu, qui sont des événements spirituels, qui ont eu lieu à travers les prophètes, jusqu'au prophète Mohammed, ces événements spirituels qui se sont traduits par des événements concrets, c'est-à-dire par une parole. la parole de Dieu communiquée par les prophètes est inscrite dans des livres que l'on appelle des livres saints, que l'on appelle les Écritures saintes, et qui sont la Bible ou l'Ancien Testament, les Évangiles ou le Nouveau Testament, et bien entendu le Coran. Ça, c'est un axe de l'histoire. Et cet axe de l'histoire est toujours présent, même dans les sociétés européennes, jusqu'à présent, malgré l'événement important qui va aboutir justement à l'émergence historique de l'individu. On va voir tout à l'heure comment l'individu émerge dans cet univers culturel commun à ce que l'on peut appeler, pour aller vite, l'espace gréco-sémitique. L'espace culturel et historique gréco-sémitique. Cet espace gréco-sémitique, travaillé par la dimension de la révélation, allant encore une fois depuis les prophètes de la Bible jusqu'au prophète Mohammed inclus, malheureusement il a été exclu au cours de l'histoire, puisque juifs et chrétiens n'ont pas voulu reconnaître justement ce troisième intrus dans la famille monothéiste. Et tous les beaucoup de problèmes vont venir de là au cours de notre histoire. C'est le refus de reconnaître que l'islam s'inscrit dans la suite d'une histoire spirituelle commencée avec les prophètes de la Bible. Et ce refus de reconnaître l'islam, ce refus de l'intégrer dans cette histoire-là, dure jusqu'à présent. Pour préparer cette causerie d'aujourd'hui, sur individus et communautés, j'ai été amené, bien sûr, comme toujours, pour préparer quelque chose, à lire un certain nombre d'ouvrages. Et il y a deux auteurs fondamentaux, modernes, qui se sont occupés de ce problème de l'individu et de l'émergence de l'individu. C'est d'une part le philosophe allemand Heidegger. Je ne sais pas si on vous en a déjà parlé. Rassurez-vous, je ne vais pas vous assommer de philosophie. Et l'historien anthropologue français Louis Dumont. Louis Dumont, qui a écrit des ouvrages d'une très grande richesse de pensée au sujet du problème de l'individu et de la communauté, en particulier Louis Dumont, qui est allé étudier la société hindoue en Inde, pour voir comment la société hindoue est bâtie sur l'idée de communauté, et pour comparer ce qui s'est passé en Inde avec ce qui se passe en Europe, où émerge la notion d'individu. Je vous cite ces deux exemples parce que ni Heidegger, ni Louis Dumont, qui se sont penchés encore une fois sur notre sujet, et il y a beaucoup d'autres auteurs, mais ces deux-là sont assez importants, je les cite comme caractéristiques, ni l'un ni l'autre ne parle à aucun moment et nulle part de l'expérience islamique, qui se trouve pourtant beaucoup plus proche de l'Europe, comme je viens de vous le dire, et qui apporte, comme nous le montrerons tout à l'heure, un certain nombre d'éclaircissements sur l'aventure de l'homme dans la communauté ou l'aventure de l'homme dans l'individualisme qui va se développer. Alors, la notion d'exclusion de l'islam, par le christianisme d'abord, ensuite par l'Europe sécularisée et laïcisée, c'est malheureusement un fait constant jusqu'à nos jours. Il faut le retenir. Et c'est ce fait de l'exclusion qui fait que, encore une fois, nous ne pouvons pas aborder les problèmes qui nous sont posés de façon correcte. Fermons cette parenthèse pour revenir à l'espace gréco-sémitique. Outre la première dimension ou le premier axe que je viens d'évoquer qui est religieux, il y a le deuxième axe qui constitue cet espace gréco-sémitique, c'est la pensée grecque, la philosophie grecque, la science grecque. Et nous sommes toujours, vous le voyez, en pleine Méditerranée. Et le directeur de cette maison, qui est d'origine grecque, je crois, sera peut-être heureux d'entendre ces choses-là. Je ne sais pas où il est. Ce que l'on ne connaît pas actuellement lorsqu'on parle de l'islam, et ce qui est affligeant, aussi bien du côté des musulmans, il faut le dire, que du côté des Européens en général, c'est que l'on ignore totalement que la pensée islamique, qui s'est développée dans l'espace méditerranéen, depuis l'Iran jusqu'en Andalousie, du 7e au 12e siècle, du 7e au 12e siècle, dans ce que nous appelons le Haut Moyen-Âge, cette pensée-là a accueilli totalement la pensée grecque. Aristote est nommé dans la pensée arabe le premier maître, al-mu'allim al-awwal. C'est le premier maître. Platon a joué un rôle fondamental dans le développement de cette pensée. Je vous donne ces indications historiques rapidement pour que, encore une fois, nous puissions reconstituer l'espace remembré, après avoir été divisé et éclaté, l'espace remembré de notre réflexion aujourd'hui sur l'individualisme et toute la philosophie incluse dans l'individualisme et la communauté. Si nous acceptons de réfléchir à l'intérieur de cet espace et de nous délivrer des fausses oppositions, des oppositions idéologiques cultivées des deux côtés. Moi, j'ai l'habitude de critiquer tous azimuts. Tous azimuts. Ah oui, je ne suis pas un apologète. Je ne fais pas d'apologie. Je suis un historien. Et je répète toujours qu'un historien, c'est un juge d'instruction qui instruit toutes les données d'une affaire, mais qui ne juge à aucun moment, ce n'est pas sa fonction. C'est le juge. Après, il va passer le dossier au juge qui, lui, va prononcer la sentence. Mais le juge d'instruction, à aucun moment, ne doit juger. Mais il ramasse tous les dossiers. Et il les compulse et il les présente de la façon la plus précise. C'est cela l'historien. Et nous sommes invités, justement, à instruire, si vous voulez, la réalité des développements historiques dans nos sociétés. Et cet espace méditerranéen que je viens d'évoquer a été un espace d'échange culturel, mais il a été aussi un espace de conflit qui a fait éclater cet espace culturel dont je viens de parler. L'événement important qui a fait que l'islam a poursuivi une trajectoire historique différente de celle qui s'est développée en Europe, l'événement important, je n'ai pas le temps d'aller de remonter loin dans l'histoire, il faut aller assez vite. Mais l'événement important, c'est d'abord la réforme et la renaissance en Europe, au XVIe siècle. Pourquoi est-ce que c'est un événement important qui va consacrer le commencement de l'émergence de l'individu qui va se libérer de l'emprise de la communauté? Et pourquoi cela va-t-il creuser un fossé à l'intérieur d'un espace qui jusque-là était informé par les mêmes enseignements, par l'Église chrétienne d'un côté et l'islam de l'autre côté? Les deux religions ont favorisé pendant des siècles la notion de communauté, communauté spirituelle, fondée sur la relation de la personne humaine créée à l'image de Dieu, qui a vocation à une vie spirituelle avec Dieu. C'est l'enseignement du christianisme, c'est l'enseignement du judaïsme et c'est l'enseignement de l'islam, exactement de la même façon, privilégiant donc la notion de communauté par rapport à l'individu. À partir de la réforme et de la renaissance au XVIe siècle, il va y avoir une demande de liberté de la personne par rapport à la communauté. Qu'a fait Luther en Allemagne au XVIe siècle? Luther a revendiqué le droit pour chaque individu, pour chaque croyant individu, d'examiner les Écritures, de lire les Écritures et d'avoir une relation personnelle avec les Écritures sans passer par le magistère doctrinal que représentait l'Église catholique. Voilà un lieu de conflit entre l'individu et la communauté. C'est un lieu de conflit. Et nous savons comment le protestantisme, c'est une protestation au sens propre, protestation contre, encore une fois, l'autorité de l'Église catholique, nous savons comment le protestantisme s'est développé en Europe et a réussi à s'implanter de façon différente selon les pays européens. Par exemple, les pays du Nord, l'Allemagne, etc., sont les pays où le protestantisme a pris racine davantage que dans les pays latins. Ça, c'est une autre, c'est un autre aspect de l'histoire. Un deuxième événement, je mentionne très vite, qui aboutit à un renforcement de cette émergence de l'individu face à la communauté en Europe, c'est évidemment la Révolution française. Ça, c'est un grand événement. Et je ne cite pas la Révolution française parce que nous sommes en France. Je cite la Révolution française en tant qu'événement qui fracasse la conception philosophique de la personne et la conception théologique de la personne telle qu'elle s'était développée auparavant, aussi bien à l'intérieur de la pensée chrétienne, catholique et protestante cette fois-ci, et dans la pensée islamique. Et là encore, nous retrouvons une unité. Que dit la pensée chrétienne et que dit la pensée islamique au sujet de la personne ? Et que va dire et que va imposer l'événement universel, de portée universelle, pas seulement de portée française, l'événement de la Révolution et de la Grande Révolution. La pensée théologique, juive, chrétienne et musulmane, impose l'idée d'une personne humaine appelée à vivre sa vie en relation avec un Dieu vivant, avec un Dieu qui intervient dans l'histoire et qui communique aux hommes ses commandements. L'éthique, le droit, qui oriente la vie de la personne ainsi définie dans les trois religions, sont fondés, enracinés dans la parole de Dieu recueillie, comme je l'ai dit, dans les Écritures saintes. Et les Écritures saintes, dans les trois religions, représentent ce que l'on nomme en théologie l'instance de l'autorité spirituelle. L'instance de l'autorité où seuls ce qu'on appelle les docteurs de la loi, au sens du latin, docteurs, ceux qui sont savants, ceux qui connaissent les Écritures et qui peuvent lire et interpréter les Écritures. Et ceci aussi dans les trois religions, toujours, il n'y a pas de différence. Ces docteurs de la loi ont la possibilité d'interpréter les Écritures et de maintenir la permanence de cette relation de chaque personne en tant que foyer autonome de vie spirituelle et de vie intellectuelle aussi, en relation avec Dieu, encore une fois, manifesté dans sa parole par la révélation. Et cette instance de l'autorité, cette fois-ci dans le christianisme et dans l'islam, moins dans le judaïsme, parce que le judaïsme a eu une histoire particulière par rapport aux deux autres religions, du fait que le judaïsme n'a pas eu, jusqu'à la création d'Israël en 1948, il n'a pas eu d'État. Ce sont des groupes, des communautés juives qui ont vécu dans des sociétés aussi bien musulmanes que chrétiennes, dans les conditions que nous vivons, et c'est toute l'histoire que nous connaissons. C'est une histoire d'ailleurs extrêmement intéressante. Mais ça, c'est très important. Comment se développe une religion sans État et comment se développe une religion avec l'État? Ça, c'est très important. Parce que c'est là qu'il va y avoir justement conflit entre la notion de communauté spirituelle développée dans l'enseignement religieux et dans la perspective ouverte par la révélation dans les trois religions et l'autre instance qui n'est pas l'instance de l'autorité, mais l'instance du pouvoir politique. Voilà deux concepts qu'il faut retenir. Autorité et pouvoir. Le pouvoir politique, c'est la responsabilité de l'État. Cet État peut être un empire, ça peut être un califat, comme en islam, ça peut être un sultanat, ça peut être un émirat. Bref, c'est un appareil de pouvoir politique qui a un pouvoir de coercition sur les sujets ou sur les citoyens. Et c'est là qu'il va y avoir les conflits entre la conception religieuse de l'autorité et par conséquent le statut de la personne qui a une vocation d'abord spirituelle et le statut politique d'une personne qui va devenir un individu, surtout à partir du moment où cet individu sera protégé par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est là que nous rejoignons l'événement de la Révolution. Et c'est là que nous rejoignons le phénomène important de la laïcisation du pouvoir, de plutôt de l'autorité religieuse, telle qu'elle avait fonctionné jusque-là, aussi bien en Europe qu'en islam. Seulement, évidemment, l'événement va avoir lieu en Europe et n'aura pas lieu en islam. Et c'est là qu'il va y avoir un décalage historique. Un décalage historique que nous sommes en train de vivre et qui produit tous les malentendus qui font que, aujourd'hui, en France, on a l'air d'être aux antipodes les uns des autres, alors qu'en réalité, il y a tout simplement un décalage historique, évidemment très important, qui n'est pas négligeable. Mais enfin, on voit très bien que par une approche historique, encore une fois, sereine et objective, on peut retrouver des sources communes, on peut retrouver des données communes, et surtout, le fait que l'islam n'a pas été touché au même degré par le développement, non pas de la notion d'individu, qui est une notion positive, mais de ce qu'on appelle et que l'on critique aujourd'hui, sous le nom d'individualisme, c'est-à-dire l'individu qui se détache complètement de toute notion de communauté et même de toute notion de société. Ça, c'est la dérive individualiste que nous constatons aujourd'hui dans les sociétés modernes. Et l'islam, par conséquent, en réinjectant, si je puis dire, dans les débats actuels sur individu et communauté, en réinjectant un sens de la communauté ou des problèmes relatifs à la communauté tels qu'il les a développés jusqu'à présent, peut enrichir le débat en cours et sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Insistons encore un peu plus sur la rupture intervenue dans la Révolution française. Parce que c'est là qu'il va y avoir une rupture non seulement d'ordre politique, mais une rupture d'ordre philosophique, encore une fois, au sujet de la conception de la personne. En séparant radicalement l'ordre du politique de l'ordre du religieux, on va écarter de l'espace de la réflexion, on va écarter de la recherche sur la notion de personne, des données qui s'étaient développées jusque-là au nom de la religion. Et cela aboutit à une privatisation de la religion dans les sociétés européennes, et principalement en France, parce que la France a sur ce point-là une évolution particulièrement poussée, même par rapport aux autres pays européens. Et on va séparer le domaine de ce qu'on appelle la théologie du domaine de ce qu'on appelle la philosophie. Et vous savez que dans nos universités, en France, pratiquement, on n'enseigne plus la théologie depuis, en particulier, la séparation de l'Église et de l'État, alors que la théologie représente une étape extrêmement importante dans la conception de l'individu et dans la conception de la personne au cours de l'histoire des sociétés européennes comme au cours de l'histoire des sociétés musulmanes. Et ce qui marque cette rupture entre l'instance de l'autorité et l'instance du pouvoir politique détenu par l'État, c'est cet événement qui est intervenu en France avec l'exécution du roi Louis XVI, qui était une exécution symbolique, comme vous le savez, puisqu'elle mettait fin à ce sacre du roi à Reims. Le roi en France ne recevait sa légitimité qu'après avoir reçu son sacre à Reims, ce qui affirmait la prééminence de l'autorité spirituelle de l'Église sur le pouvoir politique. De la même façon, en islam, le calife ne pouvait être légitime, reconnu comme légitime, que s'il était reconnu dans une cérémonie d'allégeance par ceux que j'ai appelés les docteurs de la loi, c'est-à-dire ceux que l'on appelle aujourd'hui, mais je n'aime pas employer ce mot parce que les oulémas, ils ont changé de fonction, ils sont étatisés, c'est-à-dire qu'ils obéissent à un pouvoir politique beaucoup plus qu'ils n'exercent cette autorité spirituelle qui était leur charge pendant la période du califat. Alors, ici, vous voyez donc une séparation qui est d'ordre intellectuel et qui n'est pas seulement d'ordre religieux. Ça, c'est très important à retenir parce que ça va créer un ensemble de problèmes que, aujourd'hui, nous ne savons plus comment aborder et nous ne savons plus comment résoudre parce que, aujourd'hui, l'idée qui est très répandue, aussi bien du côté des musulmans que du côté des Européens, lorsqu'il s'agit de l'islam, c'est que l'islam ne distingue jamais le temporel du spirituel. Il ne distingue jamais le politique du religieux. Il les confond. Tandis que, en Occident ou en Europe, on distingue les deux. Ce qui fait qu'en islam, l'idée de communauté continue d'être une idée prévalente, une idée première, renforcée par l'enseignement de la religion, alors qu'en Occident, qui a accompli cette évolution depuis la Révolution, la communauté est devenue secondaire par rapport au renforcement des droits de l'individu et du citoyen tels que ces droits sont proclamés depuis la Révolution. Aujourd'hui, nous ne savons plus comment aborder ce problème de la séparation du temporel et du spirituel, du politique et du religieux. Parce que, en islam, en réalité, là aussi, je voudrais rétablir les perspectives au sujet de ce point important, en islam aussi, il y a eu une séparation de ces deux instances. L'islam, la pensée islamique, a connu cette séparation puisque il y avait, comme je vous l'ai dit, l'instance des docteurs qui fonctionnait indépendamment du pouvoir politique du calife. Et les docteurs n'avaient pas d'allégeance particulière au calife si ce calife-là n'était pas reconnu légitimement par les oulémas, exactement comme pour le roi avant la Révolution en France. Et cette séparation, évidemment, ne s'est pas affirmée d'une manière aussi claire et aussi tranché que nous la trouvons en Europe, parce que, ici, il faudrait refaire l'histoire de toutes les sociétés musulmanes depuis le XIIe siècle pour voir comment la notion d'individu ne pouvait pas émerger du côté islamique comme elle a émergé du côté européen. Alors, revenons, si vous voulez, au côté islamique pour essayer de donner cette explication qui n'a rien à voir, vous allez voir, avec ce que l'on nomme globalement l'islam. Parce que là aussi, quand on dit l'islam, on met tout dedans. On met la politique, on met la culture, on met la philosophie, on met tout sous le compte de l'islam. C'est une confusion effroyable. Et lorsqu'on dit l'islam, on englobe la totalité des sociétés qui sont pourtant aussi variées, aussi éloignées l'une de l'autre que, par exemple, la société indonésienne à elle seule, qui à elle seule est une myriade de cas et de communautés, et la société marocaine ou sénégalaise. Ce sont des sociétés entièrement différentes. Et le problème qui nous est posé ici, en réalité, la position de l'islam vis-à-vis du problème de l'individu et du problème de la communauté, devrait être en toute rigueur examiner à l'intérieur de chacune des sociétés. Parce que chaque société, en réalité, apporte au problème de l'individu et de la communauté des solutions particulières. Il n'y a pas une solution islamique qui est la même pour l'ensemble du monde musulman. C'est un monde trop vaste, trop divers. Alors, ce que je vais vous dire ici, au sujet de ce qu'on peut nommer globalement l'islam et des problèmes posés par l'individu et la communauté, ça ne concerne que des données générales, effectivement, que l'on peut arbitrairement prélever pour montrer qu'on peut les retrouver, effectivement, dans ces différentes sociétés. Alors, d'abord, une précision historique. Je vous ai dit tout à l'heure que l'espace commun gréco-sémitique s'est développé en islam du 7e au 12e siècle. Du 7e au 12e siècle. C'est l'âge de grand rayonnement de la culture et de la pensée musulmane, et c'est l'âge de ce que nous appelons la civilisation islamique, dont vous connaissez les témoignages en visitant plusieurs pays musulmans. Mais après le 12e siècle, c'est une autre étape de l'histoire des sociétés où l'islam est devenu majoritaire. Du 12e au 19e siècle, du 12e au 19e siècle, voyez-vous, ça fait une longue étape, il y a eu ce que les historiens décrivent plutôt comme la période de récession ou même de décadence de l'Empire musulman, de la civilisation musulmane. Parce que, effectivement, à partir du XIIe siècle, il y a une évolution corrélative de l'Occident d'un côté qui commence son ascension politique, son ascension économique, son ascension intellectuelle, et de l'autre côté, il y a les sociétés musulmanes qui, du fait des heurts qui se sont produits depuis les croisades et ensuite avec l'Empire ottoman, va connaître plutôt un recul de civilisation. Recul de civilisation qui ne cessera pas jusqu'au XIXe siècle. Je n'ai pas le temps, malheureusement, d'analyser, bien sûr, en détail les causes de ce recul historique des sociétés musulmanes, surtout dans le monde méditerranéen. Mais il faut retenir une chose importante. C'est que le recul de l'État, le recul du pouvoir central, va provoquer un retour dans les sociétés musulmanes aux structures tribales anciennes qui sont des structures que l'islam était venu pour changer, pour dépasser. Vous savez sans doute, ici je rencontre évidemment des difficultés parce que je fais allusion à des choses qui ne vous sont pas malheureusement familières et je suis obligé chaque fois de vous donner au moins quelques explications. L'islam qui est apparu en Arabie est apparu dans une société de structure tribale. Dans la tribu, les unités sociales, ce sont ce qu'on peut appeler des groupes sociaux à forte solidarité, où l'individu ne pouvait avoir d'existence qu'en fonction du clan qui le protégeait et auquel il appartenait. Donc, la structure tribale est une réalité sociologique et ethnographique extrêmement importante, non seulement en Arabie, mais dans tout l'espace, justement, que va recouvrir l'islam. Au Maghreb, c'est la même chose. En Égypte, en Iran, en Turquie, dans tout le Moyen-Orient. La structure tribale et par conséquent la non-émergence de l'individu est liée à la prédominance de la structure tribale et de la structure de clan et de la solidarité de clan. Bien, l'islam, par son enseignement, comme je vous l'ai dit, vient promouvoir l'individu, l'arracher à la solidarité de clan pour l'installer dans une vision religieuse et dans une vision politique trans-tribale, c'est-à-dire qui traverse et qui dépasse le régime tribal, pour lui enseigner une organisation universaliste de la communauté. Voilà pourquoi la notion de communauté en arabe « umma », l'umma, telle que l'a définie le Coran, est une notion surtout spirituelle, qui recouvre la notion d'église en tant que communauté, à vocation spirituelle, exactement la même chose. et où, par conséquent, la notion de tribu, la notion de clan, sont censées être dépassées. Ça, c'est l'enseignement de l'islam par opposition à la réalité sociologique des sociétés tribales. Mais bien entendu, au cours de l'histoire, la réalité tribale, l'organisation tribale, n'a jamais disparu. L'islam n'a jamais surmonté la force de l'organisation tribale, des solidarités tribales. Et jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, les réalités des sociétés anti-islamiques avant l'islam continuent d'être la réalité dominante, malgré les correctifs qu'a pu apporter l'enseignement de l'islam et qu'a pu apporter l'organisation du pouvoir au temps du califat, c'est-à-dire du 7e au 12e siècle, comme je vous l'ai dit. Voilà pourquoi, dans la période du 12e siècle au 19e siècle, où le pouvoir du califat s'affaiblit, où la conception islamique de l'Oumma va par conséquent s'affaiblir, eh bien, pendant cette longue période, les sociétés musulmanes vont retourner progressivement à leur structure tribale ancienne. Et voilà pourquoi l'islam devient une religion populaire et non plus une religion des cités, comme elle l'avait été du 7e au 12e siècle. La réflexion théologique sur l'organisation du pouvoir et l'articulation du pouvoir à l'instance de l'autorité va disparaître. Donc un affaiblissement intellectuel et un affaiblissement culturel de tout l'espace musulman au bénéfice de ce que d'un phénomène, qui est un phénomène à la fois sociologique et religieux, et qui est le phénomène des confréries religieuses. Les confréries religieuses que les Français vont trouver en Algérie, au Maroc et en Tunisie, que les Anglais vont trouver en Égypte, en Irak, que les Français trouvent au Liban et en Syrie, au 19e siècle. Lorsque les nations européennes prennent possession par la force, comme vous le savez, de toutes ces sociétés musulmanes au 19e siècle, c'est la page coloniale de l'histoire de ces sociétés, l'islam intellectuel, l'islam culturel, l'islam politique, tout cet islam qui avait été le support de cette notion vaste et universaliste de communauté, cet islam-là pratiquement a quitté la scène sociale. Il a quitté la scène sociale. Et cela, on ne le sait pas assez. Et les musulmans eux-mêmes ne le savent pas assez. Parce que, hélas, l'histoire de cette période, jusqu'à présent, est très mal étudiée. On ne la connaît pas bien. Et ce qui se dit aujourd'hui dans les sociétés musulmanes est beaucoup plus lié à cette étape historique du 12e au 19e siècle, aggravée par l'intervention des nations colonisatrices européennes, jusqu'à la libération, c'est-à-dire jusqu'aux années 1950, vous le savez, nous le savons, en France, l'indépendance de l'Algérie ne date que de 1962. C'est donc, vous voyez, un très lent processus qui a fait que, je le répète, et c'est cela la notion importante, à mon avis, qu'il faut retenir de cette évolution historique, c'est que la notion de communauté ne va plus avoir les supports intellectuels, les supports culturels et surtout le support politique qu'elle avait eu seulement pendant 5 siècles de son histoire, du 7e au 12e siècle. Et on retourne, comme je vous l'ai dit, aux structures anciennes, aux structures tribales, aux solidarités tribales, où l'individu suivra en quelque sorte le chemin inverse du chemin qui a été parcouru en Europe pour l'individu depuis le XVIIIe siècle, depuis la Révolution française, mais je vous l'ai dit, on peut remonter jusqu'au XVIe siècle, et même on peut remonter, pour certaines idées, jusqu'au XIIIe siècle en Europe. Voilà. C'est cette évolution inversée, qu'il faut retenir. Mais j'espère avoir suffisamment mis en lumière le fait que cette évolution inversée n'est pas due du tout à ce que l'on appelle l'islam. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. L'islam, en tant que perspective sur le destin de la personne humaine, apporte les mêmes possibilités d'émancipation de la personne grâce à la communauté et au sein de la communauté qui est elle-même à vocation spirituelle. Il apporte les mêmes enseignements et les mêmes ouvertures et les mêmes possibilités que le christianisme en Europe. Ce qui s'est passé donc, ce sont des facteurs historiques, des forces historiques qui ont agi au sein de la Méditerranée et qui ont fait que, encore une fois, les sociétés musulmanes ont suivi une évolution inverse des sociétés européennes. Alors, vous pouvez me demander une explication de ce phénomène. Pourquoi est-ce que, du côté islamique, il y a eu, en quelque sorte, un échec de la montée de la personne, de la montée de l'individu dans son aspect positif, et non pas de l'individualisme, parce que, je le répète, l'individualisme va contre la communauté. Pourquoi est-ce que l'évolution s'est faite en Europe et ne s'est pas faite du côté islamique? Ça, c'est une très grande question, et c'est encore une question d'histoire, ça n'est pas une question de théologie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller rechercher l'explication dans la religion. Il faut rechercher l'explication dans l'histoire du monde méditerranéen. Et par exemple, si vous voulez comprendre un petit peu ce qui s'est passé, il faudrait lire le grand ouvrage de l'historien français bien connu, qui a été un grand initiateur à cet égard, Fernand Braudel. Fernand Braudel a écrit un grand ouvrage qui s'appelle « La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II ». Et là, vous pouvez voir les luttes qui s'engagent à partir du XVIe siècle en Méditerranée entre ce qu'on peut appeler le monde islamique d'un côté et le monde européen. Vous voyez, je dis toujours européen, pas occidental. Et j'insiste. Le monde européen d'autre part. Et c'est toute la question que nous avons étudiée au lycée. Ce qu'on appelle la question d'Orient, avec l'Empire ottoman. Et ceux de ma génération, nous avons étudié ça dans le Malais Isaac. Et le Malais Isaac nous a enseigné que les Européens, les nations européennes, étaient au chevet de l'homme malade. Voyez la métaphore. Au chevet de l'homme malade. L'homme malade, c'est l'Empire ottoman. Alors là, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire et une histoire compliquée, et c'est cette histoire-là qu'il faut scruter, qu'il faut comprendre pour essayer de voir pourquoi il y a eu cette évolution inversée de part et d'autre. Bien. Maintenant, il reste quand même à dire, mais je vois que l'heure est déjà bien avancée. Ah oui, c'est une longue histoire, parce que comme vous le voyez, je ne peux pas prendre un tel sujet uniquement du côté de l'islam. Ça n'a pas de sens. Ça suffit, comme ça, de considérer l'islam comme une sorte de sphère absolument fermée, qui fonctionne à l'intérieur toute seule, avec ses propres forces, et qui produit toujours des violences, des fanatismes, des rejets, de l'inculture, du retour à la barbarie, enfin tout ce que nous connaissons. Nous sommes habitués à ce langage, hélas. Et heureusement qu'il y a quand même beaucoup de Français qui réagissent. L'islam, il faut le présenter dans sa réalité historique, là. Il faut le mettre dans son monde. Et son monde, je le répète, c'est le monde gréco-sémitique. Et c'est une aventure intellectuelle, c'est une aventure spirituelle d'un homme à laquelle l'islam a participé. Bien. Si cette idée est bien reçue et acquise, maintenant il reste à s'interroger sur l'enjeu philosophique. L'enjeu philosophique de la priorité, de la prééminence que l'individu a fini par acquérir en Occident grâce à l'évolution institutionnelle et juridique qui a garanti à l'individu cette indépendance vis-à-vis de la société et aussi vis-à-vis de la communauté, qui fait que, par exemple en France, on voit un désintérêt même vis-à-vis des élections. C'est un phénomène auquel nous sommes en train d'assister. Parce que l'individu est parfaitement protégé. Les valeurs de l'individu, c'est le bonheur personnel, et toujours plus, comme disait l'autre, et c'est le repliement, par conséquent, sur la jouissance de ses droits qui lui sont pleinement garantis par des institutions et par la démocratie telle qu'elle fonctionne dans les structures libérales, tout au moins, de cette démocratie. Il y a là un enjeu philosophique sur lequel les philosophes s'interrogent. Et cet enjeu philosophique, lorsque nous réfléchissons sur la situation, le statut de l'individu par rapport à la société et par rapport à des communautés, si l'individu accepte d'appartenir à des communautés, cet enjeu philosophique a trait à la signification des conduites de l'individu en société. Est-ce que l'individu va être entièrement indépendant par rapport à la société, ou bien est-ce que l'individu va rejoindre cette philosophie de la personne qui a été un des enseignements les plus constants de la philosophie aussi bien que de la théologie qui se sont développées en Europe, au sens où je l'ai dit, quand je dis l'Europe maintenant, il faut inclure bien entendu l'islam. Il faut inclure l'islam, on ne peut pas l'exclure, parce que l'islam est intéressé au sort de la personne au même titre que les sociétés européennes et disons maintenant les sociétés occidentales. Alors, comment revenir ou comment reposer philosophiquement le problème de la personne aujourd'hui face à la suprématie juridique, c'est-à-dire très forte et très concrète, de l'individu? Voilà la question extrêmement importante que pose aujourd'hui un certain nombre de philosophes et de penseurs. Et ils se la posent en Europe, ils se la posent en Occident. C'est une vieille question qui rebondit et qui rebondit avec force à cause du succès même de la notion d'individu, comme je l'ai dit, dans les démocraties qui ont accompli les progrès que nous connaissons. Eh bien, pour répondre à cette question, il faut éviter, à mon avis, un écueil que beaucoup, malheureusement, n'arrivent pas à éviter. N'allez pas croire que lorsque je remets en marche, si je puis dire, la question de la philosophie de la personne face à la question de l'individu, n'allez pas croire que je prêche une sorte de retour pur et simple aux enseignements des religions révélées. Il y en a beaucoup qui font cela. Et nous savons le rôle que joue le christianisme à cet égard aujourd'hui. L'enseignement de Jean-Paul II, les paroles de Jean-Paul II à travers le monde sont des paroles qui invitent au retour à l'enseignement du christianisme au sujet de la personne, pour dépasser les égoïsmes de l'individualisme tel qu'il s'est développé dans les pays, encore une fois, qui ont réalisé des progrès historiques en ce domaine. Il y a une autre manière d'aborder ce problème aujourd'hui. Une autre manière que la manière théologique classique. Et ici, aussi bien le discours théologique chrétien d'aujourd'hui que le discours théologique musulman d'aujourd'hui ne conviennent pas pour essayer de parcourir une étape philosophique nouvelle au sujet du statut de la personne humaine et de la vocation de la personne humaine face, encore une fois, au problème de l'individualisme. Je n'ai pas le temps, évidemment, de développer, mais je dois simplement vous dire ceci, c'est toute la question de ce qu'on appelle aujourd'hui la modernité. Car l'individu, justement, est lié à l'évolution de la modernité intellectuelle. Qu'est-ce que la modernité aujourd'hui? Comment fonctionne la modernité aujourd'hui? Jusqu'à présent, la modernité a été produite dans un espace historique que tous les chercheurs d'aujourd'hui ramènent à l'espace européen, à l'espace de l'Occident. C'est dans cet espace géopolitique et culturel que la modernité a émergé, a fait ses conquêtes et se transporte comme modèle vers les autres cultures et les autres sociétés. D'où les conflits que nous connaissons entre l'Occident et ce qu'on appelle le tiers-monde. Et parmi ce tiers-monde, il y a bien sûr les sociétés musulmanes. Autrement dit, il y a là aussi un privilège accordé à la notion d'individu qui s'appuie sur la puissance de la science technologique aujourd'hui produite en Occident pour pouvoir exporter ce modèle de l'individu dans d'autres sociétés. Et cette exportation se fait sans qu'il y ait eu l'exploration préalable de l'ensemble des expériences historiques développées dans les cultures des pays du tiers-monde. Et la culture islamique, elle-même, bien qu'elle fasse partie, comme je vous l'ai dit, de la culture occidentale, est si peu explorée encore, et même elle est, je pourrais dire à certains égards, la moins bien explorée, pour essayer de développer une approche comparée, comme je l'ai dit au début, une approche comparée des problèmes relatifs à la personne humaine, à la vocation de la personne humaine, et des problèmes relatifs au rôle de la personne dans les sociétés d'aujourd'hui et au rôle des États pour organiser une évolution de la personne qui ne soit pas une évolution considérée unilatéralement à partir d'une philosophie, d'une science produite dans un espace déterminé et offerte aux autres sans que ces autres-là aient participé activement à sa production. C'est cela, l'étape de la modernité que nous n'avons pas encore franchie et que nous sommes en train seulement d'approcher à petits pas. Voilà pourquoi je termine en quelque sorte par où j'ai commencé. La maison de l'étranger, il devrait y en avoir une dans toutes les villes de France, est un pas intellectuel vers cette étape de la modernité que nous n'avons pas encore abordée dans nos enseignements, dans la structure de nos enseignements, dans la structure des programmes de nos enseignements aux lycées et collèges, et même, mesdames et messieurs, dans nos universités. Je peux vous donner beaucoup d'exemples qui vous montreront que, par exemple, la leçon de Brodel, de Fernand Brodel que je citais, pour l'étude du monde méditerranéen, avec cette admirable ouverture d'esprit que Fernand Brodel avait introduite, la leçon de Brodel pour la vision de la Méditerranée un peu telle que je vous l'ai présentée, n'a pas encore pénétré aujourd'hui l'enseignement de tous nos collègues qui enseignent l'histoire dans les lycées et collèges. Et dans les universités, les départements d'histoire, à ce jour, n'ont pas encore d'enseignants de l'autre côté de la Méditerranée. Enseignants qui apportent toute la documentation nécessaire sur l'histoire de la Méditerranée musulmane, parce que c'est aussi la Méditerranée. Alors vous voyez qu'il y a là un trou considérable. Et ce trou, tant qu'il n'est pas comblé, eh bien, on ne pourra pas répondre aux enjeux philosophiques, encore une fois, des problèmes posés par l'individualisme tel qu'il se développe dans les sociétés riches et le communautarisme, car il y a l'individualisme et il y a aussi le communautarisme qui est l'aspect négatif de la communauté. La communauté n'a pas que des valeurs positives. Par exemple, les communautés, telles qu'elles fonctionnent au Liban, vous voyez ce que ça donne. Pourquoi ? Ben parce que il y a tous ces problèmes de la culture qui sont restés intouchés. Et chaque communauté repliée sur la reproduction dogmatique de ses croyances, de ses valeurs, entre guillemets, ce qu'elle appelle ses valeurs, de ses représentations, constitue une sorte de force toujours prête à rejeter les autres qui sont perçus comme des communautés exclusivement concurrentes et rivales. Alors ça donne évidemment un fonctionnement extrêmement négatif et même dangereux de ce que l'on appelle les communautés. Alors tout cela est à réviser. Et on ne peut pas le réviser sans un autre regard porté sur l'histoire des cultures et sans une autre pensée philosophique. Car encore une fois, vous voyez, je n'ai pas voulu vous infliger des analyses philosophiques parce que c'est un peu compliqué, mais ça revient à la philosophie. Quand je vous ai parlé de Heidegger, je peux vous parler de Habermas, qui ont tous les deux écrit beaucoup sur la modernité. Eh bien, dans la réflexion si profonde, je ne veux pas du tout la dénigrer ni la minimiser, mais dans la réflexion si profonde de ces philosophes, la connaissance anthropologique, la connaissance historique des autres réflexions développées hors de la sphère européenne est inexistante. Alors c'est grave. Ça c'est grave pour notre réflexion. Alors je crois que je dois m'arrêter. Je m'excuse d'avoir été très long et je m'excuse aussi d'avoir évoqué trop allusivement beaucoup de problèmes, mais enfin on ne peut pas éviter cela. Et j'espère que la connaissance historique de la culture musulmane deviendra assez répandue pour que nous puissions ensemble approfondir des problèmes qui nous attendent et qui ne sont pas du tout, encore une fois, même abordés correctement. Merci pour votre attention.
Moi, je vous remercie d'abord, je vous remercie de votre exposé, puis il y a quand même une petite complicité entre nous qui fait que je me suis réjoui de voir réévoquer un certain nombre de dimensions dans lesquelles il faut bien essayer quand même de replacer la réflexion non seulement sur l'islam, mais sur l'ensemble du monde méditerranéen qui nous est cher à tous les deux. Je voudrais ouvrir tout de suite, permettre aux gens qui désirent intervenir, et je sais, je suis sûr qu'il y en a dans la salle, de commencer et d'intervenir, soit en posant des questions, soit en intervenant sur le thème qui nous a été proposé aujourd'hui. Alors, je donne la parole tout de suite à ceux qui désireraient la prendre. Voilà, c'est commencé. Allez-y. Appuyez. Voilà.
Merci beaucoup pour l'exposé clair et méthodologique. Mais ma question s'adresse à l'historien que vous êtes et que vous ne voulez pas donner un jugement. Pourtant, vous avez employé à propos de la crise intellectuelle que l'islam vit en France le terme décalage. Alors, dans nos têtes, le décalage, c'est par rapport à une référence. Alors, je ne sais pas, la référence va vers quelle société, la société musulmane ou la société européenne. Merci.
Oui, ça c'est une question qui effectivement revient souvent lorsqu'on parle de l'islam. L'islam actuellement ne veut pas référer à l'Occident comme à un critère, comme à un modèle, bien entendu. Et il soupçonne toutes les interventions, même scientifiques ou philosophiques, qui utilisent le cadre de pensée et le cadre d'analyse qualifié d'occidental. Ils s'en méfient. Parce que, comme je vous ai dit, la page coloniale, malheureusement, n'est pas encore tout à fait close. Mais il faut bien distinguer dans ce que nous nommons la pensée occidentale. Il faut bien distinguer ce qui, historiquement, est lié effectivement aux sociétés d'Occident, d'une part, et d'autre part, les avancées proprement intellectuelles que nous pouvons trouver en Occident au sujet d'un certain nombre de questions qui intéressent toutes les sociétés. Par exemple, l'organisation du politique dans la société. Il est évident que les expériences développées en Occident n'ont pas été développées avec la même intensité que ce que nous trouvons en Occident. Or, le politique intéresse toutes les sociétés. Toutes les sociétés s'interrogent sur le régime politique pour introduire un ordre en elles-mêmes. Et il se trouve que la notion de droit de l'homme, telle qu'elle a été expérimentée dans les sociétés occidentales, tout en étant historiquement rattachée par les événements qui se sont passés à telle société occidentale comme la France, ont une portée universelle. Il n'y a pas de société et il n'y a pas d'homme, d'individu, qui ne soit attaché à la protection de sa personne en tant que foyer de liberté. Tous les hommes recherchent cela. Il se trouve que les révolutionnaires français ont parlé de cette vocation de la personne à la liberté en des termes tels qu'ils intéressent tous les hommes. Ça, c'est arrivé comme ça. C'est de l'histoire. On ne peut pas changer l'histoire. Et donc, les hommes ont le droit de se reconnaître dans des situations historiques, même vécues en Norvège ou en Suède ou au Groenland ou je ne sais où, n'est-ce pas, ou à Madagascar, pourvu qu'une question est la figure de l'universel. Et il y a des questions et il y a des expériences historiques qui ont la figure de l'universel. C'est à ce niveau-là de réflexion que doit fonctionner aujourd'hui une pensée pour mériter le qualificatif de pensée moderne. Toutes les autres sont des pensées classiques ou des pensées idéologiques qui s'enferment dans un camp à soi. C'est compréhensible, surtout quand on a subi des dominations, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. C'est compréhensible qu'on se protège et qu'on ait des idéologies d'autoprotection. C'est tout à fait normal, c'est ce qui se passe en ce moment. Mais, sur le plan de la réflexion, qui est le nôtre, par exemple, ici, il faut savoir détecter les lieux de l'universel et les figures de l'universel pour s'appuyer dessus et continuer notre marche pour l'émancipation des hommes.
Je crois, monsieur, que votre exposé, votre conférence sont tellement riches que peut-être on ne peut pas se contenter de vous poser une petite question. C'est pourquoi j'essaierai non pas de faire un discours, rassurez-vous, mais de faire un certain nombre de remarques qui me semblent pertinentes sur le plan théorique. Et pour commencer, je dirais que je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais il me semble que le thème de la conférence, c'est Islam, individu et communauté. Je crois personnellement que je suis resté un peu sur ma faim. Autrement dit, je veux dire que dans l'exposé que vous venez de faire, il n'y a pas vraiment un fil conducteur. À part ce que vous avez dit sur la raison principale, à vos yeux, qui explique la décadence, ce que vous avez appelé la décadence entre le 12e et le 19e siècle, à savoir l'effritement de l'autorité centrale, à part, d'ailleurs, il est très discutable par ailleurs, à part ça, je crois que vous n'avez pas vraiment abordé le sujet. Et je dirais, malheureusement, ça m'agace un petit peu, parce que en parcourant ce que vous écrivez, et croyez-moi, je vous lis beaucoup, J'ai cette impression, c'est que lorsqu'on est devant votre pensée, il y a cette lacune, à savoir qu'il n'y a pas un fil conducteur qui guide, qui vous guide dans, je ne sais pas pourquoi la salle réagit ainsi, mais c'est mon droit, et d'ailleurs c'est au nom de ce droit que je m'adresse à M. Harcourt. Je crois que c'est clair. Donc je dis que ça m'agace un petit peu. Je pourrais vous citer des exemples. Vous l'avez démontré encore ce soir, votre exposé, et dans vos écrits, il y a un arsenal conceptuel imposant. Vous l'avez démontré ce soir, en parlant de la modernité, des notions et des concepts, mais il n'y a pas un fil conducteur, il n'y a pas une unité méthodologique qui unit ces différentes composantes, si j'ose dire. Le problème qui se pose, cette remarque étant faite, le problème qui se pose aujourd'hui concernant l'islam, que j'ignore moins que les autres religions, si j'ose m'exprimer en citant, le problème qui se pose, c'est quelle approche, quelle méthode adoptons-nous pour regarder, pour analyser, pour évaluer et pour essayer de comprendre. Vous avez choisi la vôtre, vous avez parlé de la modernité, la connaissance anthropologique, c'est votre droit. Mais permettez-moi de faire un certain nombre de remarques sur cette méthode, si j'ose dire. Je vais utiliser des preuves, je vais utiliser ce que vous avez cité au début de votre intervention, lorsque vous avez parlé de Louis Dumont et Heidegger, qui n'ont pas parlé dans leur recherche de la civilisation islamique ou de la composante islamique par rapport à cet édifice monothéiste. Moi, j'ajouterais à Dumont et à Heidegger d'autres noms, plus illustres encore, et que vous utilisez beaucoup dans vos recherches. Je pense notamment à Claude Lévi-Strauss. Au-delà de cet exemple, de ces exemples, si la légitimité même, je dis bien si la légitimité même de cette approche qui est mise en cause. Pourquoi je dis ça? Monsieur Harcourt nous appelle, il l'a fait ce soir, il le fait dans tous ses écrits, je dis bien tous ses écrits, aussi bien en arabe qu'en français, à adopter la méthode des sciences sociales pour aborder, pour approcher le phénomène religieux. Mais il ne nous dit jamais jusqu'à où il faut adopter ces méthodes. Vous savez bien, monsieur Harcourt, les discours des sciences sociales n'est pas innocent. Je crois Edouard Saïd l'a très bien expliqué dans ce livre sur l'orientalisme. C'est pourquoi je crois que cette entreprise, si j'ose dire, n'est pas tout à fait légitime à mes yeux. Pourquoi? Vous avez dit que la connaissance théologique, ça, on va laisser de côté. C'est votre problème. Mais permettez-moi, M. Harcourt, de vous dire que cette connaissance théologique, que je qualifierai moi tout simplement de pensée islamique, il fait partie. Il a ses limites, il a ses inconvénients, ses avantages aussi. Cette connaissance et cette pensée islamique a démontré sur un certain nombre de terrains qu'elle était solide. Les ulama, même si le mot vous agace, c'est pas, peu importe, les ulama que vous qualifiez de classiques, si même eux, même soir, Roger Arlandez vous l'a rappelé l'année dernière à la fameuse conférence de l'Académie des sciences morales et politiques, si même eux, même ont été très actifs à partir du verset coranique qu'ils vous a cité, comment ils ont traité un certain nombre de problèmes qui n'étaient pas explicités dans le Coran. Pour me résumer, parce qu'il faut quand même que je cède la parole à quelqu'un d'autre. pour me résumer. C'est plus gentil que l'erreur de tout à l'heure. Hein. Pour me résumer, je dirais qu'il y a un problème, j'allais dire énorme, à savoir la légitimité de cette lecture. Et je me rappelle, et je terminerai là-dessus, qu'il y a quelques années, j'ai lu ça dans une revue arabe, vous avez répondu à une question sur la lecture marxiste des Torahs du légat arabo-musulman, plus précisément sur Hussein Mourouy qu'on a assassiné, et oui, on a assassiné. Vous avez dit que ce ne sont que des expressions psychologique et idéologique. Je veux quand même s'y raconter qu'on dira la même chose de votre lecture. Merci.
J'ai pas voulu vous interrompre pour que vous puissiez aller jusqu'au bout, mais je demanderai aux intervenants ensuite d'être un peu plus bref si c'est possible. Parce que sans ça, tout le monde ne pourra pas parler, comme vous le disiez il y a un instant. Bon, autre intervenant, à moins que vous désiriez.
Je crois. c'est pas possible.
Oui.
Alors, il est évident qu'on ne peut pas tout dire dans une conférence. Et si je ne me suis pas appesanti
sur l'aspect théologique de la pensée islamique, ça n'est pas du tout parce que je veux l'éliminer ou que je le minimise. Si vous avez lu, comme vous dites, mes écrits, vous savez très bien que j'en parle beaucoup, et même avec une insistance constante, et en particulier pour tout ce qui concerne les problèmes centraux de l'exégèse des textes religieux, parce que la théologie s'enracine là-dedans. Mais ici, je ne voulais pas infliger au public un exposé trop technique, et je voulais surtout essayer de donner un certain nombre d'éléments de réflexion et de rétablir des perspectives sur l'islam. Mais vous savez combien c'est important dans le public français d'aujourd'hui de rétablir des perspectives sur la manière de connaître et d'aborder l'islam et les questions relatives à ce monde islamique qui est perçu essentiellement, comme je l'ai dit, à travers une actualité malheureusement toujours brûlante. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Il faut tenir compte du public auquel il ne faut pas infliger des exposés trop techniques. Nous ne sommes pas ici dans un séminaire. La deuxième chose au sujet du fil conducteur, le fil conducteur de ce que j'ai essayé de vous dire au sujet de l'attitude de l'islam par rapport au problème de l'individu et de la communauté, qui est un problème, comme je l'ai dit, général pour toutes les sociétés. Le fil conducteur, c'est qu'il faut sortir de la clôture dogmatique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aborder un problème aussi général qui concerne toutes les sociétés à l'intérieur d'une seule tradition de pensée. Ça, c'est un premier point du fil conducteur. Et le deuxième point du fil conducteur, et si vous ne l'avez pas saisi, je le regrette, c'est que il faut aborder tout problème à travers une approche comparée. Le comparatisme, en particulier, entre le christianisme et l'islam d'une part, et d'autre part, entre l'Occident sécularisé, ou laïcisé comme nous disons en France, les anglophones disent sécularisme, et l'islam, cette approche comparée de ces univers, qui sont des univers de pensée et aussi des univers d'expérience historique, me semble être la clé pour essayer, premièrement, de remembrer un espace culturel et intellectuel éclaté au cours de l'histoire que nous avons vécu et qui continue d'éclater. Et ça n'est pas une mince tâche. Et deuxièmement, si nous réussissons à faire ce remembrement intellectuel et culturel d'un espace, encore une fois, fragmenté et éclaté, alors une deuxième tâche indispensable devient possible, c'est celle, précisément, non pas de disqualifier, de mettre de côté les discours classiques, etc., pas du tout. Au contraire, il y en a qui m'accusent d'être trop classique. Oui. Mais de reprendre tous les problèmes laissés en suspens par les pensées classiques, qu'elles soient chrétiennes, occidentales, laïcisées ou islamiques. Tous les problèmes laissés en suspens, tous les problèmes escamotés par des événements historiques violents, pour essayer de réfléchir à nouveau sur ces problèmes-là, à l'aide d'une méthodologie qui est celle de la communauté scientifique d'aujourd'hui. On peut tout dire sur les sciences sociales, on peut les critiquer, elles ont bon dos, et elles résistent heureusement, et toutes les critiques que l'on peut faire aux sciences sociales, je les partage et je les connais, je m'en méfie, mais il faut encore une fois se battre pour créer cet instrument de la modernité qui est, je le résume d'une seule phrase, le rapport critique que l'intellectuel et le chercheur doivent constamment cultiver à l'égard de la question du sens. Voilà. Si ce n'est pas clair, je le regrette.
C'est très clair. Autre intervenant. Pas d'autres intervenants, pas d'autres personnes qui veuillent prendre la parole, si.